mimétiquement vôtre, Voir le monde avec René Girard.
Une émission proposée par Jean-Louis Salasque.
Bonjour Catherine.
Bonjour Jean-Louis. Si j'ai bien compris, tu veux nous parler cette semaine des contes de fées.
Oui, le conte de fées. Le conte de fées et ses merveilles, sa magie, ses ogres et ses princes, ses animaux qui parlent et sa fin heureuse. C'est le plus dédaigné des ouvrages de l'esprit, pour parler comme la Bruyère. Il n'est toléré que pour les enfants. Les clercs l'ont rejeté pendant des siècles, le christianisme combattant les superstitions. Les lettrés, de la Renaissance aux Lumières, leur ont préféré les mythes grecs et latins, ou exotiques comme les Mille et Une Nuits. L'avènement de la rationalité galiléenne l'a ridiculisé. Le progressisme sociétal veut aujourd'hui faire disparaître le conte de fées, accusé qu'il est d'implanter des stéréotypes, ou en tout cas pas les bons. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Cette phrase rituelle et conclusive exprime un accomplissement fort inapproprié dans des sociétés où l'on ne se marie plus et où l'avortement et la dénatalité prospèrent.
Mais pourtant, les contes de fées ont toujours un grand succès.
En effet, Cendrillon est toujours là, le petit pousset fait de la résistance, Blanche-Neige se rebiffe. Le public leur reste absolument fidèle, de génération en génération. Walt Disney y adosse un empire. Tolkien, théoricien de la chose, dans son livre Féerie, engendre par son Seigneur des Anneaux l'immense mouvement de la fantasy, qui n'est autre qu'un avatar du conte de fées. C'est aussi le cas des super-héros américains, leur super-pouvoir étant une sorte de magie.
Alors, et Girard ?
Le Girardien est ici mortifié. Son héros, René Girard, a collecté, scruté, analysé, interprété des mythes du monde entier, des Incas aux tribus africaines, des Indiens d'Amérique du Nord aux pharaons de l'ancienne Égypte, du Mahabharata à la mythologie scandinave, et j'en passe. Mais sur notre propre fond féerique, René Girard n'a pas écrit une ligne. Ou plutôt si, une seule, pour dire quelque part dans le bouc émissaire que les contes et légendes n'étaient qu'une version dégénérée des mythes, sans plus aucune portée religieuse. Je cite de mémoire, mais le mot « dégénéré » est bien dans son texte. Il rejoint ainsi le consensus des élites dans leur dédain à l'égard des contes de fées, mais pour des raisons propres à sa vision. Les contes de fées n'auraient plus la puissance des mythes pour dissimuler les origines sanglantes de la culture, ni donc pour les révéler une fois correctement interprétées. Et cependant, les spécialistes nous disent que ces récits sont très anciens. De tradition orale, ils ont pris une forme littéraire à partir du XVIIe siècle, avec Charles Perrault, puis d'autres auteurs, dont beaucoup de femmes, comme Jeanne-Marie le prince de Beaumont, qui a fixé l'histoire de la Belle et la Bête en 1756. Le succès des contes de fées, nous l'avons vu, ne s'est jamais démenti depuis lors. Le point qui peut intéresser l'anthropologue est celui-ci. Pourquoi une telle faveur, alors que même les élites de toutes les époques réprouvent les contes de fées et leurs avatars modernes, comme la fantasy et les super-héros? Les élites, disons-le au passage, sont les médiateurs, au sens pleinement girardien du terme. Est-il possible que ces histoires touchent le public de façon si constante sans contenir une part de vérité anthropologique? Et cette part, est-elle dissimulée ou révélée? Les contes de fées cherchent-ils à masquer nos sanglantes origines, comme disait Girard, ou à nous donner des indices afin d'en prendre conscience? Entretiennent-ils l'illusion du mensonge romantique? Dans sa psychanalyse des contes de fées, Bruno Bettelheim voit en eux une sorte de préparation aux épreuves qui attendent l'enfant pour le passage vers la vie adulte. Ils lui font notamment découvrir l'existence du mal de façon indirecte et non traumatisante. Si les contes de fées sont dignes d'une psychanalyse, ils peuvent bien l'être d'un examen girardien, ne serait-ce que pour combler l'angle mort qu'ils représentent au sein de la théorie mimétique dans son état actuel.
As-tu procédé à une lecture girardienne de certains contes de fées?
Ce serait beaucoup dire. J'ai simplement repéré quelques indices. Par exemple, quel est ce prince à qui toutes les filles du royaume s'offrent comme épouse et qui, comme par hasard, choisit Cendrillon, la seule qui se dérobe? Il me semble que René Girard a parfaitement expliqué ce type de comportement. Tout comme ce roi veuf qui, pour se remarier, ne voit pas d'autre choix que le seul impossible, sa propre fille, qui s'échappe recouverte d'une peau d'âne. Quel est cet étrange phénomène par lequel la belle voit soudain dans la bête un jeune homme charmant? Serait-ce une conversion? Serait-ce la révélation que la bête, ce bouc émissaire qui fait la cohésion du village voisin, est dépourvu de la monstruosité que les villageois lui attribuent? À quoi fait penser la mélodie du joueur de flûte de Hamelin, Hameln pour les germanophiles, qui entraîne irrésistiblement dans la Vézère tous les rats de la ville, puis tous les enfants? Et cette reine, orgueilleuse de sa beauté, qui ne supporte pas d'avoir une rivale, Blanche-Neige, qui risque de la surpasser? Difficile de ne pas voir ici une rivalité mimétique. Et à quoi peut bien faire penser ce miroir qui excite la jalousie de la reine à l'égard de Blanche-Neige, qui lui révèle sa survie et l'endroit où elle se trouve quand la reine la croit morte? Le miroir ne serait-il pas un médiateur au sens de Girard? Et cette même méchante reine, déguisée en vieille femme, incitant Blanche-Neige, qui d'abord refuse, à croquer la pomme? Et comment lui en donne-t-elle envie? En l'invitant à l'imiter, en croquant elle-même devant Blanche-Neige une partie de la pomme, la partie non empoisonnée bien sûr. Et ce petit pousset, méprisé et raillé au sein de sa propre famille pour sa petite taille, et qui sera le sauveur non seulement de ses 6 frères, mais aussi de ses parents, qui voulaient se débarrasser d'eux en les abandonnant dans la forêt. Ou encore, pourquoi un loup emploie-t-il un stratagème aussi complexe pour dévorer le petit chapeau rouge? Se substituer à la grand-mère, contrefaire sa voix, refermer la porte, obligeant ainsi la fillette à tirer la bobinette afin que chût la chevillette. Grand et fort comme est le loup, il lui suffisait de l'attendre au coin du bois. Et en quoi est-il vraiment capable d'inventer une ruse aussi sophistiquée, lui que le roman de Renard et toute la tradition populaire présentent comme un imbécile? Notre ami Charles Perrault tire la leçon « Méfions-nous des apparences ». Il aurait pu dire « Méfions-nous des imitations ». Et la fée Carabosse qui se venge d'une horrible façon du roi et de la reine qui ne l'ont pas invité. Mais d'habitude, ce sont les ogres et les ogresses qui incarnent le mal dans les contes de fées. Les fées peuvent donc commettre le mal et user de violence. Où est passé notre bon vieux manichéisme? Et pourquoi Carabosse n'a-t-elle pas été invitée, alors que 12 autres fées l'ont été? C'est qu'il manquait un couvert. Belle excuse! Le roi et la reine ne savaient-ils pas plutôt qu'elle leur serait hostile? Mais comment le savaient-ils? D'où vient alors le contentieux entre eux? Le roi et la reine en sont-ils vraiment exempts d'une part de responsabilité? Enfin, que signifie l'insaisissable dialectique de la ressemblance et de la différence dans Riquet à la houppe? Riquet, laid et plein d'esprit, comme sa future belle-sœur, alors que la princesse qu'il épousera est belle et sotte. Riquet et sa princesse se doteront mutuellement, par magie, de la qualité dont chacun est dépourvu, beauté pour Riquet, intelligence pour la princesse, tandis que la sœur s'enfermera dans le ressentiment. Est-ce là un triangle mimétique? Qui serait le médiateur? Se trouvera-t-il un jour un girardien érudit qui travaillera à répondre à ces questions, à évaluer la teneur mimétique des contes de fées et leurs récents avatars, à mesurer la pertinence de laisser nos petits s'enchanter de ces histoires, à peser qui se fourvoie, le public ou les élites?
Au revoir Jean-Louis.
Au revoir Catherine. Et merci aux auditeurs.